Eh bien, après le très bon enseignement que nous avons reçu hier de Jean-Louis sur la résurrection du Christ, aujourd'hui nous allons regarder le mystère de l'Église, dont le Seigneur Jésus est le fondateur. Et nous verrons, si vous voulez, d'abord son mystère. C'est important parce que la deuxième partie sera consacrée à la crise que nous traversons, mais il est bon de savoir que ce qu'est exactement ce mystère de la bonté du Seigneur et qui demeure à travers toutes les crises que l'Église peut connaître dans son histoire. Nous verrons donc ce mystère qui était déjà dans l'Ancienne Alliance et qui s'est manifesté dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Et puis nous aborderons après, en deuxièmement, la crise de la diminution de la pratique des sacrements dans l'Église d'aujourd'hui. Et nous le ferons avec la conscience que nous avons reprise de la sainteté de l'Église, de la fidélité du Seigneur à soutenir son Église à travers les différents aléas de l'histoire. Eh bien, voici donc d'abord un rappel de quatre situations de crise dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, où Dieu va manifeste sa fidélité envers son peuple élu. Des moments de crise d'un peuple que le Seigneur s'est choisi, son peuple élu, et qu'il conduit à travers les vicissitudes de l'histoire par une personne, un chef qu'il élit pour pouvoir conduire son peuple. Donc un salut. Israël, ce peuple que le Seigneur choisit pour être le salut des nations. Et un salut qui n'est pas un salut individuel, bien que le Seigneur vienne pour nous sauver les uns les autres personnellement. Dans l'Ancienne Alliance, c'est le salut qui se réalise par une communauté, par un peuple, sous la conduite d'un chef. Alors, on peut lire l'histoire, je vais faire un parcours simple de quatre crises que ce peuple a pu connaître dans son histoire. Mais sans s'attarder à décrypter chacune de ces crises. De toute façon, ce qui en ressort de ces crises que je vais mentionner, c'est la fidélité fondamentale de Dieu envers son peuple élu. Et chacune de ces crises ont en commun un rétablissement, une nouvelle réorganisation de la communauté sur des bases nouvelles. Dieu sauve et rétablit son peuple pour continuer l'histoire. Alors le premier de ces crises, c'est le salut. Le salut du peuple opprimé en Égypte. Dieu envoie un homme, Moïse, pour le libérer, pour le faire sortir de l'esclavage, pour lui donner une terre. Ainsi, Dieu manifeste ici parfaitement sa fidélité, son amour envers ce peuple qu'il veut rassembler et qui sera un peuple de salut adressé à toutes les nations. Il va accorder à ce peuple tout ce qu'il lui faut pour être un peuple de révélation de son salut. Il lui donne une loi qui façonnera Israël en un peuple nouveau au milieu des nations. La deuxième catastrophe sera le déluge. Là encore, Dieu prévoit un homme, Noé. Dans un temps de crise, il reçoit le Dieu de construire une arche de salut, dans laquelle c'est toutes les espèces existantes qui pourront échapper à la catastrophe, au déluge dévastateur. Saint Paul nous dira plus tard que c'est le symbole du baptême. Et à la sortie de la catastrophe, Dieu impose une nouvelle alliance. Et si nous lisons cette alliance, nous voyons que même notre société d'aujourd'hui est incapable de réaliser les exigences que Dieu donne alors pour, dans cette nouvelle alliance avec lui, avec lui-même. La troisième catastrophe, elle aura lieu en 721, où va disparaître le royaume du Nord et qui verra arriver une nouvelle population. Ce sera les Samaritains, un regroupement de gens venus de partout. C'est la raison pour laquelle les Juifs se mépriseront les Samaritains. La quatrième, on va s'y attarder davantage, est la déportation à Babylone, 587-538, qui connaîtra la destruction du temple de Salomon. 50 exils, 50 années d'exil à Babylone. Et en 538, un édit de Cyrus permettra le retour des exilés, la reconstruction du temple, qui ouvrira une nouvelle période dans l'histoire d'Israël, qu'on appelle la période du deuxième temple. Et c'est ce temple-là que connaîtra Jésus. De l'opinion de beaucoup, ce temple, ce deuxième temple, est minable par rapport à la magnificence du premier temple de Salomon. Alors c'est là que nous allons pouvoir lire le travail que le Seigneur demande à deux hommes pour être des artisans de la reconstruction de son peuple, une fois de plus. Ils s'appelleront donc Néhémie et Esdras. Et nous lisons dans Esdras au chapitre de dans Néhémie le chapitre 8e la renaissance du judaïsme ou sa naissance avec la fête des tentes. Je vais simplement parcourir parce qu'on a quelque chose aussi. Les versets 1 et 2 de Néhémie au chapitre 8e concerne le livre de la loi. On y lit, Néhémie regroupe toute la communauté pour lire la nouvelle alliance que le Seigneur établit pour son peuple. Et alors, il apporte le livre de la loi. Et on voit, il va lire du matin jusqu'au soir, de l'aube à midi, toutes les exigences inscrites dans le livre de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une estrade de bois. Il lit la loi de Dieu et il donne le sens de la lecture. Pendant 7 jours, on va célébrer la fête. Le 8e jour, il y aura une réunion solennelle. Ainsi va recommencer une nouvelle alliance. Ce peuple va recevoir donc de pouvoir, disons, retrouver son chemin. Et l'important là, c'est qu'il va le faire par la loi que Dieu apporte, que Dieu lui donne. Donc la reconstruction se fait par la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu qui va donner naissance, qui va donner le sens de cette nouvelle histoire. Eh bien, d'une certaine façon, c'est lecture de ces quatre mondes, quatre catastrophes, donne une certaine idée de ce que veut être, de ce que l'Église maintenant va être par le travail que va accomplir le Seigneur Jésus. Le salut passe par un peuple. Il n'est jamais individuel. Et il passe toujours aussi par un chef que le Seigneur suscite pour conduire son peuple. Et nous allons retrouver donc ces deux. Chaque fois, le Seigneur comprendra l'initiative d'une récomposition de la communauté. Il l'obligera premièrement à reconnaître ses fautes. Et c'est vrai dans la cérémonie expiatoire du temps de Néhémie, où les Israélites se revêtent d'un sac, la tête couverte de poussière, se rassemblent pour un jeûne et une confession des péchés, des iniquités de leur père. Ainsi, l'histoire rappelée rapidement de l'Alliance ancienne permet déjà de mieux comprendre ce que sera l'attitude du Seigneur Jésus envers son peuple. Et ceci nous amène maintenant à poser la question de la nature de cette communauté suscitée par le Seigneur et avec les exigences que Dieu renouvelle. Qu'est-ce que l'Église? Eh bien, la réponse que nous donne l'histoire, dans la fidélité, dans la continuité de son œuvre dans l'Ancienne Alliance, il s'agit d'un peuple que Dieu choisit et qu'il convoque à venir lui rendre gloire, à recevoir de lui une loi qui va définir son alliance avec son peuple. C'est dans l'Ancien Testament ce qu'on appelle le Kal Yahvé, du mot Kal qui veut dire une convocation, convoquer. La convocation que Dieu ordonne à la communauté d'Israël de se constituer en un peuple saint sous une loi de sainteté, une demande d'obéissance, parce qu'il est un peuple élu, séparé, qui appartient à Dieu. Et ce Kal Yahvé, cette communauté qui reçoit une convocation de Dieu, va constituer une communauté particulière au sein de toute l'humanité. Elle sera le signe de la fidélité de Dieu à son peuple, le signe d'un Dieu qui veut la réussite de l'homme, la réussite de la communauté, qui sera l'œuvre que le Seigneur Jésus va accomplir. La communauté avec Jésus sera orientée vers le royaume. Et nous voyons dans Matthieu 13, 15, la question de Jésus pose aux siens à ce moment-là, « Qui suis-je pour vous ?» Et c'est Pierre qui répond, « Tu es non seulement le Messie, mais tu es le Dieu vivant, le Fils de Dieu, la parole de Dieu. » Et cette révélation de la nature du Seigneur Jésus, de son identité, s'accompagne de la création de l'Église. Jésus, à ce moment-là, donc, donne à son Église les pouvoirs de la vie éternelle. Je lis pas le texte que vous connaissez. C'est Jésus maintenant qui est celui qui inspire cette révélation que reçoit Pierre en répondant à la question du Seigneur Jésus, qui suis-je? Cette révélation vient d'en haut. Elle vient du Père. Dans un autre passage, en Luc 10, 21, on apprend que c'est dans le tressaillement du Saint-Esprit que Jésus réfère au Père la révélation de son propre mystère qu'il accorde aux petits. C'est donc l'Église, la communauté par le Seigneur Jésus, est une communauté qui reçoit de Père même l'ordre de la convocation de ce peuple pour venir lui rendre gloire. C'est le Père qui est la révélation du mystère qu'il accorde aux petits. L'Église est, par le Christ, une œuvre voulue par le Père, une œuvre qui sera donc trinitaire, qui se réalise par le Saint-Esprit, et l'on dira qu'elle est à la fois christophore et pneumatophore, c'est-à-dire qu'elle porte la présence du Christ et du Saint-Esprit et qu'elle la communique. Ce que nous garderons de cette rapide histoire, c'est que l'Église est voulue par le Père et en elle résonne la convocation que fait le Père à son peuple de se regrouper, de se constituer en assemblée d'écoute de la parole du Fils. C'est le Père qui appelle, qui convoque pour faire un peuple saint à la louange de sa gloire. Et quand chacun de nous prononce le mot « Église », nous y lisons le cal Yahvé de l'Ancien Testament et la convocation de Dieu à son peuple. Cette convocation s'appelle l'Ecclésia en grec, et dans le mot « Ecclésia » retentit encore le verbe « klao », qui est le même sens que le verbe que le cal ancien, une convocation, un appel à la communauté pour qu'elle se constitue en un peuple saint. Et du mot « ecclésia », le mot « ecclésia » donne le mot « église ». Alors, c'est à chacun de nous d'entendre dans le mot « église » la parole du Père qui convoque un peuple dont nous sommes nous-mêmes appelés à faire partie pour célébrer sa gloire. Et ce peuple, comme dans l'Ancien Testament, il a un chef et sa nature, sa mission est de salut et le salut du monde. On pourra donner d'autres définitions de l'Église, du mystère de l'Église. Mais personnellement, moi, ce que j'entends quand je prononce le mot « Église », j'entends la parole du Père qui convoque un peuple dont je fais partie pour célébrer sa gloire, pour annoncer au peuple le salut. C'est moi, Dieu, j'entends le Seigneur dire, c'est moi, Dieu, le Père créateur, qui t'appelle. Toi, ma créature, à entrer dans la communion des miens, de mes enfants, que je me suis acquis par mon Fils, pour vivre une éternité de louange dans la compagnie de tous mes êtres, de tous les êtres célestes. Trône, seigneurie, principauté, puissance, tout ce que le Christ, image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, a créé au ciel et sur la terre. Colossiens 1, 15, 20. Alors, il est de nature que la communauté Église reçoit à l'invitation du Père qui la convoque, qui convoque son peuple, de recevoir la sainteté de l'Esprit. Le Credo pourra formuler ce mystère de l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Et une dernière remarque sur le sens de la catholicité, qui n'est pas l'universalité. C'est un tout autre mystère, qui signifie que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, c'est-à-dire que toute Église de la terre, quelle que soit sa petitesse ou sa grandeur, a en elle toute la réalité divine qui la constitue. Dans ma chapelle oratoire de l'Ermitage, l'Église est là dans sa totalité. C'est la catholicité de l'Église. Elle y est, le mystère y est présent autant qu'à Rome. Donc à partir de cette rapide lecture, nous pouvons accueillir les réflexions des sociologues qui ont fait un travail intellectuel sérieux pour expliquer les développements de l'Église, les raisons de la crise que nous traversons en notre temps. Mais grâce à la conscience que nous avons de la sainteté de l'Église, de ce mystère du Père qui nous convoque son Église pour en faire une communauté de salut pour les nations, la conscience que le Christ lui-même en est le fondateur et qu'il habite cette Église, alors nous pouvons faire une lecture paisible, même si on voit aujourd'hui la crise que certains appellent même jusqu'à un effondrement de la pratique chrétienne. C'est le titre, l'effondrement, c'est le titre d'un livre de Guillaume Cuchet, Anatomie d'un effondrement, que j'ai suivi et dont maintenant je peux, en deuxième partie, vous donner ce que j'en ai retenu. Et je vais commencer par maintenant, pour cette deuxième partie, par deux témoignages.
Comment ça s'écrit, Cuchet ?
Comment ? Cuchet, C-U-C-H-E-T.
C'est un laïc ou un clergé ?
Non, je crois que c'est un laïc. Oui. Ben, je vous donnerai le livre, là, je l'ai, là. Comme ça vous pourrez le voir. Eh bien, pour nous en Ariège, et particulièrement dans le secteur de l'Avlanais, deux prêtres sont en charge de la vie de paroisse et de l'évangélisation. Et pour accomplir leur ministère, leur souci pastoral les amène à célébrer chaque dimanche dans divers villages. Et une équipe s'est constituée avec une dizaine de fidèles qui se sont engagés dans la vie de prière pour accompagner le prêtre célébrant. Hélas, dans les lieux où ils vont autour de l'Avlanais, ils sont les seuls. Personne n'entend la convocation. Ils sont les seules personnes. Personne d'autre ne rejoint le groupe. Un autre témoignage, Martine, cette amie qui célèbre tous les jours avec moi l'Eucharistie, s'occupe du petit sanctuaire qui est Notre-Dame de Selles, qui est à 3 km de l'Ermitage, où passent de nombreux visiteurs, touristes, mais rarement des priants. Et récemment, à l'occasion du pèlerinage des familles, Martine a été dans l'admiration de voir des familles qu'on peut qualifier de cathos ou de transnationalistes venir avec une ribambelle d'enfants de tous âges, accompagnés d'un prêtre en soutane, vivre une très fervente messe. Et ce qui l'a frappé, c'est la joie de ces personnes, un bonheur que peu de groupes peut présenter. Alors, est-ce que l'avenir de l'Église va passer par là? Assiste-t-on à un retour de formes de vie chrétienne et de piété et qui ont été abandonnées pour beaucoup depuis Vatican II? Et quels outils avons-nous pour faire des observations valables sur la situation de l'Église aujourd'hui? Donc, au moment où on va entrer dans l'explication que nous donne le sociologue. Ces deux témoignages ont été importants, à mon avis, parce qu'ils nous donnent deux visions de l'Église, deux visages de l'Église. D'un côté, une sorte de chute, d'absence chrétienne, qui légitime d'une certaine façon le mot « effondrement », et de l'autre, une communion vivante, heureuse, d'un groupe qui vit une tradition et qui les rend heureux. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des gens vivre une vie joyeuse, de vivre joyeusement une vie de foi chrétienne. Alors, la rupture. Voilà maintenant le travail du sociologue. La rupture, 1960, la rupture. Que s'est-il passé pour qu'aujourd'hui, la pratique soit devenue pratiquement nulle dans certaines religions, dans certaines régions, où on peut constater l'absence de la Genèse, et quand donc la rupture a-t-elle commencé? Pour mieux nous aider à comprendre ce qui a pu se passer, nous avons de nombreux travaux érudits de sociologues qui se sont penchés sur cette question. J'ai cité Guillaume Cuchet, mais il y a bien d'autres ouvrages. Dominique Collin, le Christ naïf n'existe pas encore. Olivier Roy, l'Europe est-elle chrétienne? Ou Rémi Brague, après l'humanisme. Donc autant de travaux qui sont faits pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Au point de départ, en novembre 1947, apparut l'un des ouvrages les plus célèbres, les plus énigmatiques aussi de l'histoire de France, la carte religieuse de la France rurale, connue sous le nom de carte Boulard, B-O-U-L-R-D, du chanoine Boulard. C'est Gabriel Lebras qui eut l'idée de faire cette carte pour étudier de façon scientifique comment se manifeste la déchristianisation en France. Un autre ouvrage est paru avec un grand retentissement encore à cette époque, celui des abbés Godin et Daniel. Leur ouvrage intitulé « La France, pays de mission ?» Point d'interrogation. Ils ont cherché à faire la distinction entre pays de chrétienté et pays pratiquant la culture chrétienne et pays de mission. La principale conclusion qui se dégage de ces travaux est que la déchristianisation était de beaucoup plus ancienne qu'on ne l'avait jamais pensé, bien antérieure aux deux guerres mondiales et même à la politique de laïcisation de la Troisième République auquel on avait coutume de l'attribuer. Le sociologue Boulard a découvert dans ses études que le décrochage de la pratique pouvait dater des années 1960 et qu'il était donc contemporain aussi du Concile Vatican II. Un jésuite sociologue, Roger Mols, M-O-L-S, écrivait « Si le Saint-Esprit a réuni le deuxième concile de Vatican, s'il a inspiré ses décisions, on peut croire légitimement que c'était en partie pour boucher les fissures par lesquelles, depuis plus de deux siècles, l'Église perdait de sa substance au bénéfice d'une conception sécularisée de la destinée humaine. ce n'était certainement pas pour que ces fissures se transforment en crevasses, puis en brèches, de plus en plus larges et difficiles à colmater. Dans la ligne de l'aggiornamento consigliere, des mesures et des initiatives de toute espèce furent prises pour permettre aux chrétiens d'assister à une messe dominicale mieux comprise, mieux participée ou encore anticipée. Mieux participée. Sans attendre nécessairement comme effet de ces dispositions le retour des détachés et même des conformistes saisonniers à une pratique plus régulière, il était certes nécessaire d'escompter, il était raisonnable plutôt d'escompter pour l'avenir une réduction du décrochage de la pratique des jeunes. En fait, loin de constater le redressement de la pratique, ni même le maintien d'un approximatif statu quo, on enregistre une reprise accélérée de la régression, De quoi réfléchir. Des analyses de Boulard, on peut tirer le constat de la réalité de la rupture et du fait qu'elle a eu lieu au milieu des années 60, signifie qu'elle avait eu lieu avant mai 68, avant l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI, qui a rappelé l'interdiction de la contraception, qui date de juillet 68. Elle coïncidait avec le Concile Vatican II et le début de l'application de la réforme liturgique. Et les deux explications favorites de l'époque de la rupture pour le catholicisme de droite, c'est la faute de mai 68. Pour la gauche, c'est la faute de l'Humanae Vitae. Et ces deux explications sont donc à écarter. En fait, c'est bien avant 68 auquel on veut penser que c'est la cause même de la déchristianisation que celle-ci s'est produite. Et peut-être que 68 a montré, a peut-être accentué le mouvement, mais n'en est pas la cause. Que fut ce concile Vatican II, 1962-1965. Donc on vient de voir que le courant intégriste affirmait que il en était la cause. En fait, le concile n'a pas changé la foi. Dans la Constitution sur l'Église, il rappelle le sens traditionnel du sacrifice eucharistique. Il affirme qu'il est le sommet de la vie de l'Église. Il encourage la participation active des fidèles. Il a rappelé que le jour du Seigneur, le dimanche, restait un jour primordial pour la piété des fidèles. Par contre, peut-être qu'on peut trouver dans le texte sur la liberté religieuse une autorisation officieuse à s'en remettre désormais à son propre jugement en matière de croyance et de comportement pratique. Car le fait de donner une liberté de jugement contrastait fortement avec le régime antérieur. Louis Bouvier écrivait « Chacun ne croit plus, ne pratique plus que ce qui lui plaît ». Cette liberté de jugement qu'apporte le Concile a créé en fait une nouvelle culture en opposition à la pratique obligatoire de l'Ancien Régime sous peine de péché mortel. La réforme Vatican II, sous couvert de progrès, a en fait changé en profondeur la vie religieuse du plus grand nombre des fidèles. Il est évident qu'un écart s'est creusé depuis Vatican II entre les nouvelles normes de vie religieuse issues du concile et les anciennes que connaissait le peuple chrétien traditionnel. Combien ont été bouleversés en voyant l'abandon du latin qui signifiait pour eux la présence du monde divin, incompréhensible mais présent, au profit de la langue courante de ce monde malade du péché d'origine. On a demandé plus d'investissement personnel pour mieux comprendre le sens des sacrements, du baptême, du mariage, et ce qui a exigé des efforts qui n'étaient pas demandés jadis dans l'Ancien Régime. Et de plus, de nouveaux catéchismes ont voulu donner une compréhension du mystère de façon plus rationnelle et plus conforme à la connaissance scientifique, d'où des progrès nouveaux d'exégèse et de théologie, et ce qui a amené parfois des affirmations contraires à ce qui était la tradition, la croyance traditionnelle. L'institution, alors on a reproché à l'institution d'avoir, de ce que jadis elle affirmait, et de façon immuable, elle le nie maintenant. Si cela est valable pour les doctrines anciennes qui sont révisées, alors ne le serait-ce pas aussi pour les nouvelles dans l'avenir? De quoi déconcerter? Et la vérité n'est-elle pas à ce moment-là fragilisée? La question des fins dernières. Cette question des fins dernières, les fins dernières sont tombées dans l'oubli. Et pourtant, elle avait profondément marqué la conscience chrétienne au Moyen-Âge, avec des représentations macabres de l'enfer, de ces feux dans lesquels se roulaient des corps condamnés pour l'éternité. La prédication d'aujourd'hui n'ose plus utiliser ce genre qui avait pour but d'être un avertissement du pire en cas de non-repentance. Mais peut-on faire fi de cette annonce de l'enfer? L'abbé Michonneau écrivait en 1945 dans la revue Paroisse, Communauté missionnaire. Depuis quelques décades, nous hésitons à parler des fins dernières, du salut de l'âme. Sans doute, il n'est pas toujours opportun de brandir les foudres de l'enfer, encore moins, bien sûr, d'en donner des descriptions macabres. Mais le problème de l'au-delà peut et doit être posé et doit faire réfléchir. Dès l'entre-deux-guerres, un certain nombre de facteurs jouaient à minimiser la portée de l'enfer. Le premier de ces facteurs a été l'insistance nouvelle mise par les théologiens et les pasteurs sur la dimension collective et sociale du salut, sans que la nécessité de commencer à réaliser dès ici-bas et pas seulement dans le royaume du Christ. Le salut était devenu social immédiat. Et pour cela, on a voulu aussi répondre aux accusations socialistes et marxistes de favoriser l'évasion hors du monde. Le père Henri Lubac écrivait dans son livre de catholicisme de 1952 « On nous reproche d'être des individualistes, même malgré nous, par la logique de notre foi, alors que, en réalité, le catholicisme est essentiellement social. » Et puis, est apparu aussi un courant nouveau spirituel qui a répondu à un besoin, le besoin d'un Dieu compatissant, en donnant une nouvelle image du Père, un Père essentiellement miséricordieux, et c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec l'histoire d'une âme qui a rencontré un tel succès, cherchant à montrer un Dieu miséricordieux qui se réconcilie les pécheurs, là où la justice divine qui était première bascule maintenant du côté de la miséricorde. Yves Congard écrivait: on a imaginé tout un luxe de supplices. La prédication vulgaire au sens fort du mot a rendu ici les services les plus discutables. Que ne t'en pas raconter sur la soif, sur les gémissements des âmes du purgatoire? On parle de faire du purgatoire, avoir tant de purgatoire à faire, comme s'il s'agissait des jours de salle de police ou de prison, mais d'une prison où l'on n'entendrait plus l'élargissement. Une prison où l'on serait châtié, même torturé. Quel univers concentrationnaire! Et l'iconographie est venue réenchérir. La prédication semble avoir oublié la question du salut et celle des peines éternelles, et sans vouloir maintenant y revenir. Autre aspect de difficulté ou de la question de la confession. On peut trouver une même problématique d'oubli du péché d'origine et de ses effets dans l'effondrement de la pratique de la confession. Les pénitents autrefois fréquents à se confesser ont disparu des confessionnaux, puisque désormais le péché n'avait plus la même importance. Les commandements de Dieu et de l'Église ne sont plus appris ni récités. Ce qui faisait le cas de la vie morale chrétienne a été remis en cause. Je me souviens d'avoir dû apprendre et réciter ces commandements dans mon enfance, avec cette mystérieuse fabrication de la chair pour l'enfant que j'étais. Qu'est-ce que cela voulait dire ? Mais cela faisait partie de l'examen pour la communion solennelle. Eh bien, je vous rappelle.
Et pour la confirmation.
Eh oui.
Moi, j'étais que. L'examen pour la confirmation.
Ah oui. Oui, oui.
Qu'est-ce que Dieu, etc.
Oui, exactement. Tout cela, ce qui faisait la formation ou la catéchèse qui permettait d'accéder au sacrement. Je veux vous rappeler les commandements. Les commandements que nous appelions et qu'il fallait réciter par cœur. Premièrement, un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Deux, Dieu en vain tu ne jugeras, ni autre chose pareillement. Les dimanches tu garderas en servant Dieu dévotement. Quatre, tes pères et mères honorera, afin de vivre longuement. 5. Homicide, point ne sera, de fait ni volontairement. 6. Luxurieux, point ne sera de corps ni de consentement. Ça, c'était le numéro 6 qui était le plus courant. 7. Le bien d'autrui ne prendra ni retiendra à ton escient. 8. Faux témoignage ne portera, ni mentir aucunement. 9. L'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. 10. Bien d'autrui ne convoitera pour les avoir injustement. Quel est aujourd'hui pour le peuple chrétien la valeur de ces commandements? Pour certains, ils sont toujours au cœur de la vie morale. Ils sont donc toujours valables. Pour d'autres, le Christ est venu les transformer intérieurement pour qu'ils soient maintenant repris dans le contexte de l'amour, de la miséricorde que le Seigneur apporte. il y avait 6 commandements de l'Église. Premièrement, les fêtes tu sanctifieras qui te sont de commandement. Deuxième, les dimanches, messe ou ira, et les fêtes pareillement. 3. Tous tes péchés confesseras, à tout le moins une fois l'an. 4. Ton Créateur tu recevras, au moins à Pâques, humblement. 5. Qu'entre-temps, 4 temps, vigile, jeûnera, et le carême entièrement. 6. Vendredi, chair ne mangera, ni jour défendu, mêmement. Ces commandements peuvent peut-être sembler d'un autre monde, par leur formulation.
Oui, c'est ça, c'est...
Et pourtant, ils sont inscrits dans les catéchismes diocésains. Ils ont été inscrits jusqu'en 1947. On les trouve dans le missel quotidien des fidèles, qui a eu pour auteur un groupe de prêtres du diocèse de Lille et des jésuites. On trouve les textes d'un côté en latin et de l'autre côté la traduction française. Et ce missel qui avait pour nom Feder, du nom de Jésus qui le publie, date de 1952. Il avait été publié par l'approbation du centre de pastoral liturgique et on y trouve ces commandements de Dieu et de l'Église.
Mais oui, mais moi, on me l'a offert pour ma communion solennelle, le fédéral.
Ah,
ouais.
C'était
pour fédérer tout le monde.
Alors moi, personnellement, à titre de confesseur, quand j'ai commencé ma vie de confesseur, j'ai surtout entendu... c'était très simple.
T'as pas le droit de raconter les secrets de la
confession. Les veilles de fête, donc, les curés et les abbés restaient des heures dans les confessionnaux.
Ah, ouais.
Je me souviens de ça.
Ah, oui.
À Morgac, entre autres, par exemple, il fallait y passer pendant des heures et des heures. Et on avait à peine le temps pour aller à la toilette. Il fallait écouter les pénitents qui faisaient le compte de leurs péchés. Alors avant de rentrer dans le confessionnal, ils prenaient un petit coup pour se réconforter.
Il y avait même des plaquettes pour préparer.
Alors il y a la plaquette. Alors, c'était très simple. Il fallait, alors, mais surtout, il ne fallait pas consacrer plus de temps à l'un qu'à l'autre.
Ah.
Moi, je me suis tapé sur les doigts à cause de ça. Il fallait faire très attention à ça.
Il y avait la jour
parce qu'il y avait toute une foule qui attendait derrière.
Il y avait le jour de confession des hommes et le jour de confession des femmes.
Ah. Voilà.
Et le jour de confession des enfants.
Ah oui.
Oui.
Ah. Voilà.
Et les grands-parents, c'était...
Et alors, si on gardait trop longtemps...
Oui.
Quelqu'un de confessionnal, tout le monde disait, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait?
Sainte Thérèse d'Avila a arraché les jambes de ses sœurs s'ils étaient trop longtemps le confessionnal.
Ah oui, ça blague.
Ah bah oui.
Oh, mais de quoi se mêlait
ça? Ah ben c'était parce que... C'est elle.
Alors, quels étaient...
En plus,
voilà, oui, c'est ça. Il pouvait y avoir de la suspicion.
Exactement.
Sur ce qu'on avait confessé. Est-ce que c'était vraiment les péchés ou ils étaient en train d'en commettre?
Non, au contraire, parce que c'est nos souvenirs qui sont bons de partager.
Et alors, ce que tu parlais du péché de la chair, quand on a fait la retraite pour la communion solennelle, le brave père, c'était un missionnaire diocésain, il n'a pas arrêté de nous parler du péché de chair.
Ah, voilà.
Ouais, je commençais à avoir un bol à la fin. Hein.
Ça omnubilait les pasteurs. Et moi, je crois que c'est le fait des célibataires.
Oui, c'est ça.
Oui, ouais,
il y a un problème, là, du célibat des prêtres, là-dedans. De toute façon, c'était très simple. Hein. Vous étudiez, la personne rentrait dans le confessionnal, et puis vous entendez 3 fois le 1, 6 fois le 6, 4 fois le 3.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi alors?
Eh ben, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui n'allait pas à la messe le dimanche, et alors Eh bien, il avait manqué 4 fois la mèche, ça faisait 4 fois le 3.
Mon père m'accuse d'avoir volé 2 fagots en venant.
Voilà.
Et puis mettez-en 4 parce que je vais prendre les 2 autres en partant.
Mais le péché favori. Le péché favori à l'époque, ou qu'il est peut-être le demeure encore, c'est le 6e.
Alors, c'est quoi le 6e?
Alors, le 6e, ça, c'est celui-là qui vraiment l'emporte sur tous. Luxurieux, point ne sera de corps ni de consentement. Alors, celui-là, le curé, il écoutait. Il était curieux. Il voulait savoir ce qui lui était passé.
Et comment tu sais ça?
Pourquoi? Parce que ça l'intéressait particulièrement, lui-même, dans sa propre faiblesse à lui. Et lui-même, en étant compromis par cette faiblesse normale d'humanité. Alors, combien on comprend par ce moment-là, combien de personnes ont été déroutées quand on leur a demandé non pas de dire le 2, 3, 4, 5, mais de dire ce qui s'est passé. Quels sont vos sentiments? Comment vous pouvez pardonner quelqu'un? Etc. Quand on se met à entrer dans le dialogue, il n'y avait pas de dialogue aucun.
Je serais curieux.
Mais je... Vous-même.
Histoire de 1, 2, 3. Moi, à part toi, j'ai jamais entendu un autre.
Non, moi non plus.
Dire
non.
Ça,
c'est-à-dire, tu avais une feuille.
D'une manière générale, le fidèle a été désorienté par les nouvelles normes. La masse des catholiques était habituée à consommer des sacrements de manière individuelle, discrète, et beaucoup ont accueilli sans enthousiasme ces incitations que nous faisons au dialogue, à la participation, qui voulait les sortir de l'anonymat, du silence, en les transformant de façon plus ou moins autoritaire en un peuple de militants. Les implications canoniques de la catéchèse ont été assouplies, concernant par exemple le maigre du vendredi, la messe de façon anticipée le samedi soir, pour libérer les activités du dimanche, la messe n'étant plus alors célébrée. On peut aussi comprendre combien ces changements ont pu désorienter les simples, à leur faire regretter la disparition d'une église qui leur était familière à leur niveau et qui leur donnait l'assurance de la vie éternelle. À la crise des vocations, ils perdaient le soutien de leurs prêtres. L'église se vidait, ils perdaient le curé qu'ils aimaient, qui faisait partie de la famille, qui partageait simplement les repas avec eux, qui partageait leurs joies, leurs pleurs, à l'occasion qui donnait même un coup de main pour les travaux des champs. Un temps où le curé restait très longtemps dans la même paroisse, il connaissait tout le monde. Il avait baptisé, confessé, marié. Et dans les milieux traditionnels, on a pu dire que le clergé avait désinstallé volontairement un système ancien de normes qu'il avait mis en place avec beaucoup de mal. Et les chrétiens se demandent alors, que faut-il faire pour l'éducation des enfants? Faut-il encore les obliger à aller à la messe? Doit-on absolument y aller tous les dimanches? Peut-on dans ce domaine permettre aux cadets de dire que ce qu'on a interdit aux aînés? Quelle religion transmettre aux enfants? Celle d'hier ou celle d'aujourd'hui? N'est-ce pas évident qu'il n'y a pas d'obligation à pratiquer? N'est-ce pas évident que s'il n'y a pas d'obligation à pratiquer, beaucoup vont se dispenser de la pratique. Alors la question s'est posée. Faut-il moins d'obligations pour accéder à plus de liberté? Les commandements sont-ils des obstacles à la liberté? La liberté peut-elle exister sans contrainte dans notre condition de pécheur? Face au décrochage de la pratique, une partie du clergé a pris conscience tardivement qu'elle avait peut-être un peu trop, de façon imprudente, scié allègrement la branche sur laquelle elle était assise. Un certain nombre de clercs ont commencé à rappeler que l'obligation de la pratique n'était pas caduque, qu'il importait toujours d'en restaurer le sens dans l'esprit des fidèles, qu'il serait sommaire de conclure qu'il suffit de retirer à la messe du dimanche son caractère d'obligation pour en atténuer ou d'atténuer profondément le caractère pour que, ipso facto, les consciences réagissent dans le sens d'une compréhension plus profonde du mystère. L'éducation de l'homme ne se fait pas d'un coup. Comment arriveront-ils à comprendre le sens sacré de la messe et à la vivre, ceux qui n'y vont jamais, sans lier la valeur essentielle et profondément religieuse de la recherche d'une présence au monde, de l'édification d'un monde actuel plus juste, plus fraternel? L'aspect sacramentel et mystique ne peut pas être omis ou négligé. C'est toute la question du passage entre un monde et un autre monde nouveau, un tout autre monde. Et alors, je voulais terminer par le motu proprio que vous connaissez, qui a bouleversé une fois de plus la conscience des personnes. Le pape François, dans son adresse du 16 juillet 2021, a envoyé une lettre apostolique qui renferme des décisions prises de sa propre initiative sous le titre de « Traditionis Custodes ». Cette lettre a été beaucoup commentée, non pas parce qu'elle était inattendue, mais plutôt parce que son ton est solennel, ferme, et parce qu'elle revient sur des décisions qu'avaient prises ses deux prédécesseurs. J'attire simplement, et alors notre évêque Jean-Marc, je vais vous donner sa réaction, il disait, j'attire votre attention sur quelques points qui pourraient faciliter notre compréhension, notre réception et donc aussi notre mise en œuvre des attentes du pape François. Premièrement, il est sans doute de bon aloi quand celui qui reçoit la mission d'être le serviteur des serviteurs de Dieu s'adresse à nous, d'accueillir ses propos avec un a priori de bienveillance, même lorsqu'on ne comprend pas, en première intention, la raison des décisions prises, même lorsque cela nous heurte ou nous blesse. Ai-je conscience que je ne dispose pas de tous les éléments qui ont conduit à ces décisions? Vais-je analyser, essayer d'entrer dans l'argumentation, demander conseil et enfin prier avant de réagir? Les réactions épidermiques immédiates, sans recul, que les réseaux sociaux favorisent, laissent peu de place au discernement, aux paroles choisies. Ne soyons pas prompts à réagir ou à surréagir. Un appel adressé à tous. Le pape, même s'il aborde surtout la question spécifique de l'attachement de certains membres du peuple de Dieu à un ordo missé précédant la réforme liturgique, nous invite tous à examiner, puis à réajuster notre relation à l'Eucharistie. Ce mystère si grand, si central dans notre vie de foi, ne peut être livré tantôt à nos besoins de créativité, tantôt à une mode, tantôt à une nostalgie ou à tel autre de nos émotions. L'Eucharistie ne nous appartient pas, elle appartient à l'Église du Christ. C'est un chemin d'obéissance. Comment faire pour ne pas tomber ou ne pas tomber gravement dans ce travers? Toute l'histoire de la liturgie est faite d'adaptation de l'expression priante de la foi et du commandement du Seigneur lors de la scène. ne nous servons pas de la messe, mais au contraire, servons-la. Face à la douleur et à l'inquiétude, le pape François nous exprime sa douleur et son inquiétude. En effet, les fruits d'unité et de communion espérés par ses prédécesseurs en bien des endroits n'a pas vu le jour. La distance est même accentuée au point que certains finissent par penser être la vraie Église en contraposition avec l'Église conciliaire qui se serait fourvoyée. Il y a de la douleur, de l'inquiétude aussi chez ceux qui avaient accueilli avec reconnaissance la possibilité offerte de célébrer la messe selon le missel promulgué par Saint Jean XXIII et étaient sur un chemin d'unité et d'enrichissement mutuel souhaité par le pape Saint Paul II et le pape Benoît XVI. Avec eux, conscients de cette douleur, nous veillerons fraternellement à ce qu'elle ne se transforme pas en amertume. Nous étudierons paisiblement, progressivement, comment mettre en œuvre les appels de notre pape François pour le bien de notre Église et pour pouvoir, ensemble, avec une plus grande unité, annoncer le Christ et son Église à nos contemporains. On sait combien ce motu proprio a bouleversé. Et là, donc, notre évêque qui nous avait donné cette réflexion a essayé de minimiser un peu le drame que certains quand même ont vécu quand on a appris qu'ils n'avaient plus le droit de célébrer l'ancien rituel. Alors que Benoît XVI avait quand même laissé les choses ouvertes.